Le sujet qui a été choisi pour cette réunion d'études, comme chacun sait, est la vie du serviteur Étienne, celui qui, comme nous l'avons dit dans la prière, a été un serviteur remarquable dès le début de l'Assemblée sur la terre. Nous lirons donc ce matin le chapitre 6 et le début du chapitre 7 jusqu'au verset 4. Or, en ces jours-là, le nombre des disciples se multipliant, il s'éleva un murmure des hellénistes contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service journalier. Et les 12, ayant appelé la multitude des disciples, dirent « Il ne convient pas que, laissant la parole de Dieu, nous servions aux tables. Jetez donc les yeux, frères, sur cet homme d'entre vous qui est un bon témoignage, plein de l'Esprit Saint et de sagesse, que nous établirons sur cette affaire. Et pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Et ce discours plut à toute la multitude. Et ils choisirent Étienne, homme plein de foi et de l'Esprit Saint, et Philippe, et Procore, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche, qu'ils présentèrent aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Et la parole de Dieu croissait, et le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Or, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait parmi le peuple des prodiges et de grands miracles. Et quelques-uns de la synagogue, appelés des Libertins, et des Cyrénéens, et des Alexandrins, et de ceux de Cilicie et d'Asie, se levèrent, disputant contre Étienne. Et ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui disaient « Nous l'avons, oui, proférant des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Et ils soulevèrent le peuple et les anciens et les scribes. Et tombant sur lui, ils l'enlevèrent et l'amenèrent devant le Sanhédrin. Et ils présentèrent de faux témoins qui disaient « Cet homme ne cesse pas de proférer des paroles contre le saint lieu et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que ce Jésus le Nazaréen détruira ce lieu-ci et changera les coutumes que Moïse nous a enseignées. » Et tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin, ayant leurs yeux arrêtés sur lui, virent son visage comme le visage d'un ange. Et le souverain sacrificateur dit « Ces choses donc sont-elles ainsi ?» Et il dit « Hommes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habitât en Charan, et il lui dit « Sors de ton pays et de ta parenté, et viens dans le pays que je te montrerai. » Alors, sortant du pays des Chaldéens, il habita en Charan. Et de là, après que son père fut mort, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. Nous voyons que la parole se plaît à souligner la vie de ce serviteur dans ces deux chapitres. Et un seul a été le serviteur parfait. C'est notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, le parfait serviteur. Et peut-être Étienne a-t-il eu des moments de faiblesse dans son existence, mais la parole ici ne nous en parle pas. Pourtant, il a présenté dans les caractères qu'il revêtait dans sa marche et dans sa vie, et en particulier dans son service dans l'Assemblée, il a présenté des caractères du Seigneur. Et en particulier, il a donné sa vie, lui aussi, pour son Seigneur. Par reconnaissance, nous pourrions dire, et comme témoin, il a été jusqu'à donner sa vie, imitant en cela notre Seigneur et notre Sauveur, qui lui a donné sa vie pour notre salut à tous et pour le salut des hommes. Nous voyons donc que cet Étienne, dont la mort peut nous présenter aussi des enseignements, mais dont la vie a été marquée par des caractères comme ceux du Seigneur Jésus. Et dès le début de sa marche ici-bas, de son service dans l'Assemblée, le Saint-Esprit se plaît à souligner ces caractères qu'il a manifestés. C'est donc sa vie qui sera la plus instructive pour nous, et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui.
Le nom d'Étienne veut dire couronne. C'est une des rares vies que nous présente le Nouveau Testament, de son début, en tout cas du début de son service, jusqu'au moment de sa mort, jusqu'à son martyre. C'est un des rares serviteurs, on vient de le souligner d'ailleurs, dont la vie nous est présentée sans défaillance. Sans doute il en a eu, mais la parole les passe sous silence. Et ce sont là des traits des gens qui sont très remarquables, parce que l'on peut dire que de très près, il a suivi le Seigneur qui l'honorait. C'est donc sa personne qui va nous occuper aujourd'hui. Et peut-être pour cadrer ce sujet, serait-il souhaitable de nous présenter une petite structure que nous essayerons de suivre au cours de ce jour. Tout d'abord, dans les premiers versets de ce chapitre 6, nous voyons la situation de l'Assemblée dans ce temps-là. Ce sont les premiers versets qui nous exposent la situation et en particulier un problème particulier qui s'est posé et qui a permis que soit manifesté un certain nombre de serviteurs, dont Étienne. Ensuite, nous avons, et en particulier dans le verset 5 de ce chapitre 6, Étienne présenté comme serviteur, comme diacre. Étienne, le diacre. Nous avons dans les quelques versets qui suivent, dans ce chapitre 6, à partir du verset 8 au verset 10 en particulier, Étienne l'évangéliste. L'évangéliste. Et puis nous aurons, à partir du verset 11, et ceci ira jusqu'à la fin du chapitre 7, le témoin. Le témoin dans le sens étymologique, c'est-à-dire celui qui va jusqu'au martyr. Il est remarquable à ce sujet de voir ce que dit de lui l'apôtre Paul qui assistait au dernier moment d'Étienne au chapitre 22, simplement pour voir le terme dans lequel il le caractérise. Au chapitre 22, quand Paul fait son apologie, une des fois où il le fait, nous trouvons au verset 20 de ce chapitre, « Et lorsque le sang d'Étienne, ton témoin, fut répandu, moi-même j'étais présent, ton témoin. » Le Nouveau Testament nous présente essentiellement deux témoins qui ont eu ce titre, ce caractère, c'est Étienne, et c'est Antipas que nous trouvons donc dans l'Apocalypse au chapitre 2. Le témoin. Et dans ce sous-chapitre du témoin, nous avons en premier lieu le témoignage, qui va donc juste du verset 11 du chapitre 6 au verset à peu près 53 du chapitre 7. C'est son témoignage, le témoignage rendu par ce témoin. Le témoignage à une nation constamment infidèle, qui a rejeté tous les prophètes. Elle a rejeté Joseph, elle a rejeté Moïse, elle a rejeté les prophètes qui ont suivi, elle a rejeté Christ, et elle rejette maintenant le dernier témoignage, celui du Saint-Esprit. Suivront dans les versets, les derniers versets, le martyr pour le nom de son Seigneur. D'abord alors la situation de l'Assemblée dans ce moment-là. Un problème s'est posé, un problème purement matériel, et une certaine plainte, un murmure des hellénistes contre les Hébreux parce que leur veuve était négligée dans le service journalier. Comment donc était fait ce service? Il suffit que nous nous reportions au chapitre 4, Et nous lisons dans le verset 35, 34, 35, « Il n'y avait parmi eux aucune personne nécessiteuse, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix des choses vendues et le mettaient aux pieds des apôtres. Et il était distribué à chacun selon que l'un ou l'autre pouvait en avoir besoin. » Alors, voilà donc, les choses étaient disposées aux pieds des apôtres, qui prenaient la responsabilité, semble-t-il, de cette distribution. Et voilà qu'il semble que quelque chose de bien établi, de quelque chose établi avec sérieux, sous la garantie, si l'on ose dire, des apôtres, voilà que quelque chose semble ne pas convenir. C'est un point qui peut nous interpeller, cela. Voilà un simple service, service de distribution. Il semble que l'on se soit entouré de toutes les garanties. Les apôtres sont là, les garants de cette distribution. Et voilà qu'il semble qu'il y a malgré cela des murmures. Et il faudra changer. Ceci nous interpelle en ce sens que peut-être, dans certains ordres matériels, dans nos assemblées locales, il y a des dispositions qui ont été prises, et puis elles ont été entérinées par l'habitude, peut-être la routine, des habitudes déjà anciennes, et on croit que c'est bon et que ça doit subsister, et peut-être faudrait-il, sur certains points, s'interroger. En tout cas, quand le problème a été placé devant les apôtres, ils l'ont pris au sérieux et ils ont cherché devant Dieu comment ce problème pourrait être résolu. Peut-être pourrions-nous en tenir quelques instants seulement, puisque nous ne sommes pas encore à la personne d'Étienne, mais c'est ceci qui va être déterminant pour le choix d'Étienne comme serviteur, peut-être voir ce petit problème-là sans y rester trop long.
Il appartient à Dieu et à Dieu seulement de tirer le bien du mal. Voilà une circonstance affligeante dans l'Assemblée, quand il y a des dissensions, des partis qui se forment, c'est toujours bien triste et humiliant. Et les choses ne devraient pas durer des années, quelquefois des générations. Mais Dieu tire le bien du mal. Lui seul peut le faire. Il va mettre sur la scène, appeler sur la scène un homme de Dieu, un serviteur, préparé dans un but spécial. Et ce but, c'est de tirer la conclusion, de faire le bilan final de l'histoire d'Israël. Donc un homme qui est préparé, que Dieu connaissait, Dieu connaît ses serviteurs avant de les placer sur la scène, qu'ils soient en évidence, Dieu connaît les dispositions secrètes de quelqu'un. Et ici, c'était un homme qui était caractérisé par ce fait qu'il était plein de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous est décrit dans la deuxième épître à Timothée, au premier chapitre, comme un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Trois aspects, trois caractères. La puissance, beaucoup de croyants cherchent cette puissance et s'en contentent. L'amour ou la grâce. Et la sagesse, le conseil, le sobre bon sens, diverses manières de comprendre cette expression sont les compléments. L'esprit se manifeste de ces trois manières. Eh bien, c'est beau de voir qu'Étienne était caractérisé comme le verset 8. Le montre par la grâce et par la puissance, et puis au verset 10 par la sagesse. Les trois manières dont l'Esprit se manifeste sont en lui. Et cet homme était plein du Saint-Esprit. Et on peut dire, jusqu'à la fin de son témoignage, de son histoire, c'est cela qui le caractérise. Il est le vase par lequel le Saint-Esprit va s'exprimer. Et il va être celui en qui le Saint-Esprit va être rejeté. On aura l'occasion certainement de revenir sur ce point-là. Et Étienne nous montre donc ainsi déjà ce qui caractérise le christianisme, c'est-à-dire Christ en haut, et il va le contempler à la droite de Dieu, et l'Esprit dans le croyant sur la terre. Le Saint-Esprit est sur la terre et il sera en vous, a dit le Seigneur Jésus. Eh bien, nous voyons un homme dans lequel le Saint-Esprit se trouve et se trouve à l'aise. Il n'y a rien dans cet homme qui fasse obstacle à la plénitude du Saint-Esprit. Un grand et beau modèle pour nous. Il va donc être là, l'instrument choisi par Dieu pour tirer la conclusion de l'histoire d'Israël et faire un bilan final de cette histoire et en même temps introduire ce qui va caractériser l'Église.
Nous sommes réunis autour de la parole pour que cette parole puisse être mise en application. Il y a bien des choses dans ce sujet qui nous est présenté et que nous pourrons ainsi voir sous cet angle. Car si l'étude de la parole en soi est précieuse, cette valeur de la parole ne peut prendre tous ses effets que lorsque elle trouve en chacun de nous une réalisation. Nous voyons donc dans cette assemblée à Jérusalem une difficulté, on y a déjà fait allusion, nous ne reviendrons pas sur ce côté-là, mais le premier enseignement qui se dégage, c'est que les charges qui incombaient aux disciples, c'est-à-dire aux disciples, les 12 disciples, que le Seigneur avait laissés après son élévation dans le ciel pour établir son Église, après la descente du Saint-Esprit. Nous savons qu'au début, les difficultés ne manquèrent pas pour cette assemblée. Et là, nous en voyons un exemple. Difficulté d'ordre matériel. Il s'agissait de répartir les biens, les aliments, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait été fait appel à ceux qui possédaient pour offrir leurs dons sous différentes formes. Nous savons Ananias et Saphira, par exemple, Barnabas, ont apporté de l'argent avec lequel le nécessaire était acheté et distribué ensuite à ceux qui n'avaient pas de quoi se nourrir ou de quoi faire face à leurs besoins. Ces tâches impartirent tout au début aux apôtres. Et ceux-ci en avaient aussi, comme nous le voyons, d'autres. Non pas des charges, si l'on veut, mais des services. Celui de la parole et de la prière, qui était un service prédominant et essentiel. Et il s'avère que ces apôtres, devant s'occuper d'une part des questions matérielles et des questions spirituelles, étaient surchargés. Et il faisait l'expérience que le résultat n'était pas pour le bien de l'ensemble. C'est une première application que nous avons à réaliser dans nos assemblées. On ne peut pas demander à un frère de tout assurer, car l'assemblée est constituée de croyants qui ont tous un service, quel qu'il soit. Non pas seulement le service qui est peut-être considéré à tort d'ailleurs comme le plus important ou comme le plus recherché, celui de la parole, mais des services qui contribuent au bien de l'assemblée tout entière. Et ces services d'ordre matériel ont leur importance, et cette importance est soulignée par ce fait que lorsque les disciples considèrent les choses avant de s'arrêter à Étienne, on l'a dit, 7 personnes sont désignées. 7 personnes avec les caractères que ces personnes devaient avoir. Un bon témoignage, c'est essentiel, chers amis. Le témoignage, nous le savons, c'est cette conduite du croyant qui fait qu'il honore la parole et l'enseignement qu'il a reçu. L'apôtre Paul rappelait cela, non pas pour des serviteurs dans l'assemblée, mais pour des esclaves. Et si cela a été requis de la part d'esclaves, ou dans l'épître à Tite, nous voyons qu'ils avaient à orner l'enseignement de Dieu, du Dieu sauveur qu'ils avaient reçu, combien plus ceux qui ont à cœur dans l'assemblée d'avoir un service. C'est donc ce côté essentiel aussi de la vie du croyant et qui ne doit pas être oublié. Un bon témoignage, c'est-à-dire une vie, un comportement, une conduite qui soit telle qu'il n'y ait pas de critique à formuler à l'égard de ceux qui ont un service et qui, du fait de ce service, se mettent involontairement, se mettent en évidence. Celui qui a un service est vu. Et ceux sur lesquels on porte nos regards sont souvent, hélas, l'objet plutôt d'exigences que d'encouragement. Il faut donc que celui qui a à cœur un service dans l'assemblée, quel qu'il soit, ait tout d'abord une conduite telle qu'il puisse être reconnu comme fidèle dans l'enseignement qu'il a reçu. Et la seconde question, c'est que nous pourrions être étonnés que pour ce service matériel de distribution des biens dans l'assemblée, il soit requis ces 3 conditions, le bon témoignage, rempli de l'esprit, sage. Oui, chers amis, quel que soit le service que quelqu'un est appelé à réaliser dans l'assemblée, le service le plus modeste, qu'il s'agisse du ménage qui doit être réalisé dans chaque local, qu'il s'agisse de toute autre chose, de ces tâches qui nous paraissent banales, sans importance, sans intérêt peut-être. Pour le Seigneur, il y a un intérêt. Et pour ces tâches, il faut aussi ces conditions. Lorsque les yeux des disciples se portent sur ces 7, chacun de ces 7, en dehors d'Étienne, devait avoir ces caractères par lesquels on pouvait leur faire confiance. Que cela soit pour nous quelque chose qui ne s'oublie pas et que nous ayons tous à cœur d'être caractérisés de ce qui a honoré ceux qui ont été ainsi appelés. Nous voyons ensuite, en plus de ces 7, Étienne qui occupe la première place parmi les 7 nommés, auquel il est ajouté encore quelque chose qui avait été vu de lui et qui s'ajoutait à son témoignage. Homme de foi, et insistant encore, homme rempli de l'Esprit Saint. Et lorsque l'on considère alors Étienne un peu plus loin dans son service, il est ajouté que c'était aussi un homme de grâce et de puissance. Si bien que dès le début de notre étude de la vie d'Étienne, nous pouvons voir ce qui caractérisait cet homme et qui le distinguait parmi les 7 autres qui, comme lui, devaient avoir aussi ces qualités communes. Et nous voyons par là que Étienne, cet helléniste, au fond ce juif qui ne vivait pas en Palestine, mais qui vivait à l'étranger et qui pratiquait la religion judaïque, était déjà un homme fidèle, qui connaissait parfaitement l'Ancien Testament Et le réquisitoire qu'il va présenter ensuite aux Juifs le montre. C'est lui qui va nous établir un résumé de toute l'histoire du peuple d'Israël, qui est un résumé en soi remarquable. Donc, Étienne était déjà un vase préparé. Préparé en vertu de quoi ? En vertu de tous les caractères qui avaient été discernés par les anciens, par les apôtres, et qui le prédisposaient déjà à ce service si particulier, mais si éclatant et si béni qui fut le sien.
J'aimerais faire quelques remarques sur l'importance du service que le Seigneur appelle chacun de ceux qui sont à lui. Et je pense qu'il est utile que nous nous souvenions toujours de la grâce qui nous a été faite, que après nous avoir retiré de ce présent siècle mauvais, après nous avoir donné la vie, eh bien, nous pouvons nous souvenir de cette expression de l'évangile de Jean, de la plénitude de Christ, nous avons tous reçu, et grâce sur grâce. L'exemple d'Étienne est remarquable, mais Quel amour de Dieu qui veut nous sauver, qui veut faire de nous aussi des serviteurs qui sont appelés des administrateurs, des collaborateurs, et prendre parmi ceux qui ont été dans le monde autrefois, comme nous l'étions, des gens qui sont à sa disposition pour refléter les caractères du serviteur par excellence, Jésus lui-même. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Et si la parole insiste bien pour rappeler par la bouche de Jean-Baptiste, celui sur qui l'Esprit demeurera, c'est celui qui baptise de l'Esprit Saint. Nous avons quatre caractères qui nous sont mentionnés concernant Étienne, plein de foi et de l'Esprit Saint, et plein de puissance et de sagesse. Et voilà que nous revenons à celui qui est l'auteur et la source de toute chose, du Seigneur lui-même, qui veut nous associer en quelque sorte à ce service d'amour pour chercher les âmes, pour leur parler du grand salut que le Seigneur Jésus a opéré, pour que nous soyons en quelque sorte ses ambassadeurs. La parole de Dieu emploie cette expression. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Quelle noblesse dans ces expressions, et que le Seigneur nous accorde la grâce. Si la fatigue ralentit nos pas, que du moins l'amour de Christ nous étreigne toujours davantage.
Arrivé au paragraphe suivant, simplement un mot à la fin du verset 6. Les sept frères d'Antioche présentent les sept aux apôtres. On voit un bel esprit de soumission des frères de l'assemblée aux apôtres. Et ceci, ce trait de caractère des frères de cette assemblée est remarquable. Il les présente aux apôtres, et puis, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Il y a donc une prière pour les confier à Dieu, et ils leur imposèrent les mains, ce qui donc traduit leur identification avec eux. Ensuite, verset 7, la parole de Dieu croissait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Voilà une expression qui nous surprend peut-être, des sacrificateurs qui obéissaient à la foi. La parole ne nous dit pas là s'il s'agissait de sacrificateurs continuant à offrir au temple des sacrifices. L'accent est plutôt mis, semble-t-il ici, sur le fait qu'ils étaient de la famille d'Aaron. Et il y avait donc des gens de la famille d'Aaron, donc des sacrificateurs, toute la famille d'Aaron était faite de sacrificateurs, qui se sont convertis et qui n'obéissaient plus à la loi, mais obéissaient à la foi. Et c'est à ce moment-là alors que le service d'Étienne comme évangéliste va commencer. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait parmi le peuple des prodiges et de grands miracles. Deux remarques seulement. Il n'est pas envoyé par les apôtres comme évangéliste. Il n'est pas envoyé par l'assemblée. Il a la main d'association. Mais relisons 1 Corinthiens 12, une expression qu'il ne faut pas oublier. 1 Corinthiens 12, au verset 11. Mais le seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Le serviteur dans son service dépend essentiellement de son Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui lui-même distribue dans les services comme il lui plaît. Il a donc, Étienne, poussé, conduit par l'Esprit dont il était rempli, de sagesse, nous l'avons vu également, de foi, de grâce, de puissance, faisait. Il nous est dit « faisait ». Puis ensuite, il va être dit « parlait » dans quelques versets plus tard. C'est remarquable de voir la façon dont le Seigneur lui-même nous est présenté, l'action du Seigneur dans le premier chapitre des Actes. Nous avons une expression qui est assez remarquable concernant le Seigneur. Le premier verset. « Toutes les choses que Jésus commença de faire et d'enseigner ». De faire et d'enseigner. Voilà un homme qui commence à traduire dans les actes les choses. Et puis, alors, il parlait. Prenons garde d'avoir un christianisme fait de discours plus que d'actes.
Obéissait à la foi. Nos frères ont déjà fait remarquer que Étienne était plein de foi. Et nous pensons à ce que l'apôtre Paul écrit à son enfant Timothée dans le chapitre 1er de la première épître où au verset 19 pour écouter, afin que par elle, c'était les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elle tu combattes le bon combat, gardant la foi, dans une bonne conscience. Nous savons qu'ici, la foi, c'est l'ensemble des vérités de la doctrine chrétienne. Alors, posons cette question, est-ce qu'il est possible d'être plein de foi si on ne garde pas la foi? Il nous semble bien que les deux vont ensemble, plein de foi lié à gardant la foi, l'ensemble des vérités de la doctrine chrétienne. Pour garder quelque chose, nous devons donc connaître ces vérités. Et Étienne, s'il était plein de foi, c'est qu'il connaissait l'ensemble des vérités et qu'il les gardait. Et alors le résultat, c'est que l'on obéit à la foi. Et en relation avec ce mot d'obéir à la foi, nous soulignons 2 ou 3 passages. Le premier dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1er, l'apôtre va parler du Fils de Dieu, déterminé Fils de Dieu en puissance par l'Esprit de sainteté, par la résurrection des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, c'est celui qui remplissait le cœur d'Étienne, par lequel nous avons reçu grâce et apostolat. Tant il est vrai, comme notre frère M. Lane l'a rappelé, que quel que soit le service qui est confié à un frère ou à une sœur, c'est une grâce que Dieu nous fait. Et dans ces temps difficiles que nous vivons, dans les assemblées, dans ces mots dont notre frère M. Terrade a parlé et qui ne sont pas guéris et nous en pleurons, n'est-ce pas parce que souvent nous voulons servir ailleurs et autrement que la manière dont le Seigneur nous appelle à servir. Nous n'avons pas à choisir le service. Et nous aimons souvent rappeler les deux prières de Saul de Tarse lorsque le Seigneur l'a arrêté sur le chemin de Damas. Il a posé deux questions qui doivent être posées. Nous le disons d'abord pour nous-mêmes, mais pour nos jeunes frères et sœurs, deux questions à poser au début de la carrière chrétienne. Qui es-tu, Seigneur? Et ensuite, que veux-tu que je fasse? Que dois-je faire, Seigneur? Que dois-je faire, Seigneur? Lorsque Élie a posé son manteau sur les épaules d'Élisée, Élisée a compris à quoi Dieu l'appelait. Mais dans l'humilité qui le caractérisait, malgré sa force, il a attendu le moment de Dieu pour remplacer en réalité Élie. Et entre-temps, que faisait-il? Notre frère M. Finet l'a souvent rappelé. Entre-temps, que faisait-il? Élisée, il versait l'eau sur les mains d'Élie. Nous revenons à la pensée d'obéir à la foi, par lequel nous avons reçu grâce et apostolat pour l'obéissance de la foi parmi toutes les nations. Plein de foi, garder la foi, obéir à la foi. Second passage, dans la même épître, au chapitre 6, Romains 6, voilà ce que l'apôtre peut déclarer de ses croyants à Rome. Verset 17. Or, grâce à Dieu, de ce que vous étiez esclaves du péché, mais de ce que ensuite vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. La doctrine, la connaissance des vérités chrétiennes, ils avaient été instruits dans cette doctrine et ensuite ils avaient obéi de cœur. Mais quand l'apôtre doit écrire aux Galates, Épître aux Galates, chapitre 5, verset 7, vous couriez bien, tant il est vrai que pendant un temps, on peut obéir, et puis l'ennemi intervient, vous couriez bien. Qui est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? Alors voilà le danger. Que Dieu nous en garde et que nous retenions ces trois côtés quant à la foi, plein de foi, gardant la foi, obéissant à la foi.
La simplicité du christianisme est que la vérité est toujours manifestée dans des personnes. Elle est manifestée d'abord dans la personne du Seigneur Jésus, et après continuer dans une personne comme Étienne, de sorte que dans chaque crise du témoignage, Dieu a toujours ses hommes ou un homme qui est préparé. Il n'y a pas de théorie d'évolution dans les choses spirituelles. Si nous pensons à Adam, Dieu ne commence pas avec un bébé ou avec un jeune garçon. Il commence avec un homme qui est parfaitement adulte. et c'est ce dont nous avons, dont il est besoin pour le témoignage au temps présent. Le chapitre 6 nous montre vraiment Étienne comme l'antitype de David. Dans la première partie du chapitre, il est présenté comme un homme de paix, et dans la dernière partie du chapitre, comme un homme de guerre, qui combat. Dans l'une des plus grandes crises de l'histoire d'Israël, Dieu a présenté David. Il est dit de lui qu'il était un bon musicien. C'était un homme vaillant, un homme de guerre. Et ensuite, il était dit qu'il pouvait parler, bien parler. Et il avait une bonne prestance. Toutes ces choses sont vues dans Étienne. Première chose qu'on voit dans lui, c'est de l'harmonie. Il est quelqu'un qui peut jouer d'une manière habile. David a calmé l'esprit de Saül et a amené un esprit de tranquillité, ce qui est très important dans nos assemblées locales. Beaucoup de chez nous sont ambitieux quand il s'agit de prêcher. Nous aimons être connus publiquement. Mais ce qu'il y a d'important, c'est notre attitude et notre capacité au milieu de nos frères locaux. S'il y a des éléments différents dans nos localités, dans nos assemblées locales, qu'elles soient sociales ou nationales, avons-nous la capacité d'apporter un esprit d'harmonie, de paix? C'est le type d'homme dont Dieu a besoin, d'homme nécessaire dans le témoignage. Pensons aux qualifications de cet homme, au caractère de cet homme, plein de l'Esprit Saint, plein de sagesse, de foi, de grâce et de puissance. Il nous fait penser à David. C'est avec ses 5 petites pierres qu'il va à la bataille. Un homme formé par Dieu dans le secret. Beaucoup d'hommes pensent qu'on peut être entraîné dans des séminaires aujourd'hui. Beaucoup de jeunes chrétiens se demandent pourquoi ils ne peuvent pas assister à de tels cours bibliques. Mais Dieu a sa propre école de formation. Et ce sont les assemblées locales où un homme est formé selon les pensées de Dieu. Et c'est dans des assemblées locales que Dieu se plaît à former de tels hommes. De sorte que s'il y a des problèmes parmi les saints, s'il y a de l'opposition de l'extérieur, nous pouvons faire la pratique de la musique, si on peut dire, David, ou être ceux qui peuvent combattre aussi, montrer leur aptitude au combat. Ces deux caractères apparemment opposés sont trouvés ici dans un seul homme. Il y a tant de spécialistes que l'on voit dans le monde maintenant, religieux. Oui. Ceux dont nous avons besoin dans nos assemblées locales, ce sont des généralistes, pas des hommes spécialisés dans des questions particulières ou dans des sciences particulières, si on peut dire, mais des hommes qui sont formés et des hommes qui ont une histoire secrète avec Dieu. Okay.
Enchaîner sur ce qui vient d'être dit, et en particulier la comparaison avec David, un verset dans le même livre des Actes, au chapitre 13, est important, au verset 36 du chapitre 13. Car David, après avoir en sa propre génération servi au conseil de Dieu, s'est endormi et a été réuni à ses pères. Le verset nous montre que chaque croyant a son service spécifique. Tous sont différents, nous sommes tous différents ici. Nous avons tous un service particulier. Que ce soit une sœur qui peut-être dit, mais moi, j'élève mes enfants, je suis à la maison, quel service est-ce que je peux avoir? Chère sœur, vous avez ce service-là. Cette responsabilité, élevez vos enfants, aidez votre mari. Chacun a son propre service. Et est appelé au moment où le Seigneur le veut sur la scène de ce monde, puis passera. Le service ne nous appartient pas, le Seigneur le confie à l'un ou à l'autre. Et en ce qui concerne Étienne, il a évidemment un service particulier. Le service, on dit quelque chose tout à l'heure, mais quoi qu'il est bon d'y insister. C'est l'homme que Dieu allait charger de tracer le bilan final
de l'histoire d'Israël. Alors nous sommes là dans une période dont la durée ne nous est pas fixée, mais qui n'est pas très longue, de l'histoire de l'homme et des voies de Dieu envers l'homme. C'est une période qui s'écoule entre la Pentecôte et le moment où le Saint-Esprit va être rejeté, où cet ambassadeur va être envoyé, Étienne, n'est-ce pas, dont le Seigneur nous suggère la pensée quand il dit « ils ont envoyé un ambassadeur pour dire « mais nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ». Et on peut dire que dans ce temps de la patience de Dieu qui s'écoule entre la Pentecôte et l'apparition d'Étienne et sa mort, nous sommes là dans un temps où Dieu répond à la prière du Seigneur sur la croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». C'est encore un temps où le peuple est considéré comme ignorant, comme n'ayant pas, après la mort du Seigneur, disons, reçu un témoignage complet de la patience de Dieu. Une ultime période de patience. Et maintenant, Étienne surgit sur la scène parce qu'en lui, il va être vérifié que le peuple qui a rejeté Dieu dans la personne du Fils rejette aussi Dieu dans la personne du Saint-Esprit qui se trouve dans son fidèle témoin. On a donc bien ainsi un tournant, une charnière dans le livre des Actes où un serviteur apparaît pour un but précis qu'un autre n'est pas appelé à remplir. Il est là unique, Étienne, il remplira ce service. Mais nous voyons quelle préparation il y a lorsque ce serviteur formé, comme nous venons de l'entendre, par une activité, il parle au cœur, là, la grâce est mentionnée d'abord, et c'est remarquable, n'est-ce pas, qu'au verset 8, il soit dit, Étienne, plein de grâce et de puissance. La grâce venant avant la puissance. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes dans l'économie de la grâce. La grâce. Est-ce que le peuple va écouter cette douce voix, cette douce musique de la grâce, pour reprendre l'expression qui a été employée à propos de David? Pas plus que le témoignage du Seigneur, le témoignage de son témoin ne sera reçu.
Dieu forme ses serviteurs, c'est certain. Mais au fond, Étienne, qui a été dans cette affaire un instrument unique de la part de Dieu, ne réalisait certainement pas ce que Dieu voulait faire de lui à l'avance et en quoi et comment il allait l'utiliser. C'est quelque chose qu'on retrouve d'une manière plus générale dans beaucoup de services. On a parlé du service de sœurs et du camp formant les enfants à la maison, une Anne éduquant, formant son Samuel et le donnant à l'Éternel n'envisageait nullement quelles allaient être toutes les conséquences de son acte et comment Samuel allait être un instrument majeur au service de Dieu en sa génération. David également, s'il s'occupait donc d'harmonie dans la musique, s'il s'occupait de lutter contre le lion et l'ours, s'il faisait cela dans le cadre de sa fonction de berger, et il n'envisageait nullement une fonction beaucoup plus élevée qui allait être la sienne, donc de roi conduisant son peuple et de type du Seigneur et du roi selon le cœur de Dieu. Et c'est un des caractères qui doit caractériser tous les services et qui est très beau et qu'on retrouve donc ici spécialement dans Étienne, caractéristique de quelqu'un qui est dépendant et qui est plein de l'Esprit Saint. Il agit pas à pas, c'est un des caractères de la foi également, on ne voit pas forcément les choses à long terme. Le long terme, c'est Dieu qui le voit, qui s'en occupe. Et le propre du serviteur, c'est de marcher pas à pas dans la dépendance, dans l'action de l'esprit. Il a été formé, on a insisté plusieurs fois. Il connaissait les Écritures, le chapitre 7 le montre. Mais voilà, il est affecté aux tables. On aurait pu dire, mais connaissant les Écritures, plein de l'Esprit Saint, à quoi ça sert les tables? Mais c'est ainsi la pensée de Dieu. Il commence par les petites choses, et cela est précieux. On commence par les petites choses, des plus grandes sont confiées. Ensuite, il est amené à disputer avec ses libertins cyrénéens, alexandrins, etc. Peut-être que sa fonction même d'avoir été mis servant aux tables pour les veuves des hellénistes l'amène à ses contacts avec tous ses contestataires. Il saisit l'occasion, il tient ferme pour le témoignage de Dieu, mais il saisit l'occasion pas à pas. Il n'avait pas vu à l'avance que cela était son service. Ensuite, il va être amené devant le Sanhédrin, devant des juges, une expression de qu'on trouve dans Marc au chapitre 13, verset 9. Vous prenez garde à vous-même, car ils vous livreront au Sanhédrin et aux synagogues. Vous serez battus et vous serez traduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. On voit donc que vis-à-vis des grands de la terre, Dieu veut rendre témoignage, comme vis-à-vis de tous les hommes, mais d'une manière très singulière, par des serviteurs qui sont traînés devant les tribunaux. Et c'est de cette manière que le témoignage est rendu. Mais là encore, on voit le serviteur dépendant pas après pas, qui n'a pas choisi sa voie de rendre témoignage, mais qui saisit par la puissance de l'Esprit la bonne occasion pour le faire. Et bien que nous puissions également être désirer ces choses, ben c'est également selon la pensée de Dieu de désirer un service, poursuivez avec ardeur les dons spirituels. Poursuivez avec ardeur, on le trouve trois fois dans 1 Corinthiens 12 à 14. Eh bien, que nous puissions à la fois dans ce désir de cœur, de serviteur dépendant, d'être utile au maître, d'être préparé, se préparer selon ce que Dieu donne, mais le moment venu, dans la puissance de l'esprit et dans la dépendance, saisir l'occasion que Dieu donne.
Ce qui compte dans tout croyant, dans tout serviteur de Dieu, c'est l'être moral. Ce sont les valeurs morales que Dieu apprécie, et c'est précisément ces valeurs qui sont mises en évidence dans cette personne d'Étienne. Et elles sont mises en évidence de telle manière qu'il saute aux yeux qu'elles sont là, vues dans leur plénitude. Plénitude, plénitude de foi, plénitude de l'Esprit Saint, plénitude de grâce, plénitude de puissance, plénitude de sagesse. Dieu veut que, selon le souhait de la prière de l'apôtre Paul en Éphésiens, nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous nous contentons souvent de demi-mesures, de petites mesures, de foi ou de grâce. Hélas, nous avons à rechercher cette plénitude. Nous avons à la demander. L'apôtre la demandait pour tous les saints. Nous avons à la demander pour nous-mêmes. C'est dans cette mesure où ces valeurs morales habiteront en nous et où l'Esprit Saint agira à travers cette plénitude-là, que nous pourrons être alors utiles dans le service et fidèles dans le service. La foi ne peut être conservée, nous dit la parole, que par une bonne conscience. La plénitude de la foi ne peut donc être réalisée que dans une conscience pure devant Dieu. Nous l'avons lu dans un des versets tout à l'heure de l'Épître à Timothée au sujet des serviteurs ayant gardant le mystère de la foi dans une conscience pure. Et au premier chapitre de cette même Épître, gardant la foi et une bonne conscience. Et puis, il y en a qui n'avaient pas gardé la bonne conscience et qui avaient fait naufrage quant à la foi. La première des choses, donc, pour que la foi soit gardée, c'est que la conscience soit pure. Un croyant ne peut bien servir que s'il a une foi sincère, et cette foi sincère ne peut être gardée que dans une conscience pure, dans un cœur pur. Il faut s'exercer devant Dieu, se juger devant Dieu, de telle manière que nous soyons assurés devant lui. Alors, le service pourrait être accompli véritablement à sa gloire. Eh bien, voilà un homme qui était plein de foi, qui était plein de l'Esprit-Saint. Et dans ce livre des Actes, nous voyons les apôtres qui étaient qualifiés de cette manière-là, étant remplis de l'Esprit-Saint. Nous le voyons pour l'apôtre Pierre, au chapitre 4 et au verset 8e. Alors Pierre, étant rempli de l'Esprit-Saint, leur dit. Nous le voyons donc là pour Étienne, nous le voyons au chapitre 11 pour Barnabas, au verset 24. C'était un homme de bien et plein de l'Esprit-Saint et de foi. Et nous le voyons pour Paul aussi, au chapitre 13e. Et au verset 9, Saul, qui est aussi appelé Paul, étant rempli de l'Esprit-Saint. Et nous voyons que, précisément, l'Esprit-Saint se plaît à relever cela chez ses serviteurs dans certaines circonstances précises où cette plénitude a été véritablement manifestée aux yeux de tous publiquement. Mais ils n'avaient pas attendu ce jour-là pour laisser la place au Saint-Esprit dans leur conscience, dans leur âme, dans leur cœur. C'est une attitude personnelle, secrète avec Dieu. C'est une question de foi, de piété. Et puis, Étienne était plein de grâce. C'est une vertu qui nous manque souvent. Et pourtant, c'est cette vertu qui doit caractériser, au-dessus de toutes les autres, l'économie de la grâce dans laquelle nous sommes. Nous devons être caractérisés par ce qui a été manifesté par notre Maître le premier. Il a apporté la grâce avec la vérité. Nous avons tous reçu de lui cette plénitude-là, grâce sur grâce, de sa plénitude à lui. Et il faut que nous la manifestions aussi dans les actes que nous sommes appelés à accomplir de tous les jours. Une grâce qui montre que nous avons l'esprit du Maître, le cœur du Maître. Ses attentions qui ont été les siennes dans tous les instants, répondant aux besoins de chacun. Voilà comment les serviteurs agissent dans l'Assemblée et aussi devant le monde. C'est à cela que nous serons reconnus comme des serviteurs de Dieu dans le monde. Si nous avons dans le cœur cette grâce de notre Seigneur Jésus, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, eh bien c'est la place humble qu'il a prise dans la pauvreté pour que nous fussions enrichis.